Alors, a priori, on a un quart d'heure. Je vais trouver un petit peu plus. Alors, d'abord, quelques mots pour m'excuser. Merci de vous avoir accueilli. Puis quelques mots pour m'excuser. Dès le départ, ça commence mal. Parce que d'un côté, certains terrains dont je vais parler sont du coup un petit peu anciens. Et d'autres un peu trop nouveaux aussi pour tirer des conclusions, comme vous verrez. L'idée principale de ma communication, c'est que les différents temps et les différents lieux de la migration africaine subsaharienne en France vont influer sur les carrières religieuses. Et puis, je voulais aussi vous dire que j'ai commencé à travailler sur les mourides. Et puis, petit à petit, puis dernièrement, j'ai quand même fait quelques infidélités, puisque je suis partie au Maroc pendant 4 ans, où j'ai travaillé sur les migrations africaines et chrétiennes. Et donc, j'ai continué à travailler aussi après la Mouridia sur la formation des étudiants africains à Lazare. Et puis, petit à petit, je me suis penchée sur la question de la formation religieuse, mais une formation religieuse chrétienne au Maroc, dans un institut de théologie qui s'appelle l'Institut Al-Mourafata. Alors, ce pas de côté, finalement, m'a aussi beaucoup apporté, puisqu'il m'a permis aussi de travailler la question du croisement entre les migrations et les questions religieuses, mais aussi d'aborder les questions de théologie et formation religieuse, peut-être aussi de manière moins confessionnelle. C'est vrai que j'ai travaillé pendant longtemps sur la question de l'islam mouride, et puis un petit peu plus large après sur l'islam soufi africain. Et puis petit à petit, en travaillant aussi dans la migration, en rencontrant d'autres parcours, ça m'a un peu permis de déconfessionnaliser aussi mon rapport à ce croisement religion et migration, et de rencontrer aussi des acteurs qui sont aussi au croisement entre des réflexions entre plusieurs religions. Mais revenons alors à l'objet de ma communication, qui est les guides et les leaders religieux sénégalais, les acteurs et leur parcours entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique méditerranéenne et l'Europe. Donc comme je vous disais, à travers différents temps et lieux de la migration et sur une scène religieuse qui est quand même pas mal en mouvement, sur laquelle je travaille depuis une vingtaine d'années, on va rencontrer petit à petit plusieurs figures de chair, de guides, d'imams sénégalais. Il faut savoir d'abord que le Sénégal n'a pas eu de politique nationale d'accompagnement religieux de ses ressortissants. Il n'a pas transnationalisé, entre guillemets, ses imams ou ses chairs, même si très récemment, en fait, depuis février 2017, il y a eu en tout 140 étudiants sénégalais chaque année qui sont venus se former au Maroc à l'Institut de formation Mohamed VI. Et on voit bien qu'il y a une nouvelle vigilance, on va dire, et pas vraiment une politique, autour de la question de l'encadrement religieux au Sénégal. Mais jusqu'à présent, la question ne s'était pas spécialement posée. Enfin, je pense que Bakary en parlera un petit peu après moi sur cette question de la transnationalisation et de l'encadrement religieux sur des périodes un petit peu plus récentes. Si t'arrêtes de bailler, ou si c'est bien. En règle générale, comme vous verrez, ce sont en majeure partie les hommes, par leur migration, par leur mobilité, qui ont installé leur religion et qui ont construit, souvent en lien avec leur hiérarchie religieuse, confrérie, dans le cas qui m'intéresse, des pratiques d'encadrement dans les lieux et dans les pays de passage. Alors, aussi, une autre réalité qu'il faut essayer de comprendre dans les temps de la migration aussi, c'est que c'est souvent des temps longs, et que c'est souvent des temps, on l'a vu un petit peu dans le petit topo que Juliette a fait avant de commencer, c'est souvent un temps de précarité, de fragilité, au départ de la migration, où la religion prend une place centrale dans la vie, un temps, par moment, dans la migration aussi, où on va s'éloigner des aînés, et aussi de certaines contraintes traditionnelles, peut-être un moment où on peut rencontrer aussi de nouvelles religions ou des nouveaux courants au sein de la même religion. En fait, c'est surtout, on dirait, un temps qui est négocié entre une religion qui est héritée, celle avec laquelle on part, et une religion qui va s'investir et se comprendre dans la mobilité. Et c'est au sein de ces parcours de mobilité qu'on va voir aussi naître ou se révéler des nouvelles vocations religieuses. Alors c'est intéressant dans ce colloque parce que les acteurs dont je vais parler, certains sont plus là, certains sont là encore et certains seront là plus tard. Donc pour commencer, le premier temps, la migration sur lesquelles j'ai travaillé à Marseille, la migration sénégalaise dans les années 60, la figure de l'encadrement religieux recouvrait celle de l'imam commerçant. C'était le cas de l'imam Sek, qui est un ancien tirailleur sénégalais, qui est décédé en 96 et qui a été un des premiers membres de l'association vitrine de la ville de Marseille, Marseille Espérance, qui promeut la paix entre les communautés religieuses. Alors les premiers commerçants se sont installés dans la ville de Marseille et ont été accueillis souvent par les anciens marins et les anciens tirailleurs qui étaient déjà sur place. Et ces gens-là aidèrent les premiers à s'installer, et donc à s'installer, mais aussi à exercer leur culte. C'est le cas aussi d'Alachi, qui est un commerçant tidjane, qui tenait un restaurant, bon, pour ceux qui connaissent un peu Marseille, à la rue des Baignoires, puis à la rue Tubano, dans le quartier Balzins. En tant que musulman, donc lui-même accueillait ses proches pour les cérémonies de prière dans une petite pièce qui, au départ, était une arrière-boutique qui avait été négociée avec un commerçant juif dans le quartier de Balzins. Donc, il accueillait dans son arrière-boutique un petit peu tous les Sénégalais qui arrivaient, les jeunes, pour exercer le culte. Un jeune étudiant qui a été un des fondateurs de la Daïra Mouride à l'époque disait de lui que c'est un imam à la rue Mission de France. C'est un vieux, un ancien tirailleur, bien instruit et qui cohabite avec les Arabes. Mais lui, c'est un tidjane. Et c'est principalement lui qui a accueilli dans un premier temps les jeunes mourides qui débarquaient à Marseille et ils organisaient ensemble les veillées de prière, les prières hebdomadaires et aussi les ziaras dans certaines circonstances, notamment quand les chers sénégalais, donc la confrérie n'était pas encore organisée pour que les chers rendent visite à leurs talibés, mais par contre il y avait une ligne qui allait jusqu'à la Mecque et les bateaux s'arrêtaient et faisaient escale à Marseille. Donc les premières organisations se sont faites dans ce cadre-là. Globalement, que ce soit les tidjanes ou les mourides, la forme était la même, c'était des daïras, des associations qui étaient fondées sur les modèles associatifs religieux au Sénégal, mais qui en France étaient déclarées comme associations culturelles en loi 1901. En général, c'est des associations qui disposent de petits locaux en centre-ville, et puis ou d'arrière-boutiques ou de petits appartements qui permettent de recevoir les talibés, mais aussi régulièrement, donc, ce que je vous disais, les chers et les leaders religieux des tariqas qui étaient de passage à Marseille. Petit à petit, on va voir le schéma d'accueil évoluer, hein, et globalement, jusqu'aux maisons Sérine Touba, aux maisons comme le centre de Taverny, centre culturel de Taverny, etc. Donc, on va voir petit à petit de ces petits appartements, des espaces plus grands qui vont naître aussi dans les années qui ont suivi. Et en général, globalement, les prières avaient lieu au Daïra le dimanche matin. Et dans les temps, donc ces premiers temps de la migration, le temps 1 dont je vous parle là, c'était le plus ancien ou le plus légitime, l'aîné ou le plus lettré de la communauté, tirailleur, commerçant ou ouvrier dont je vous ai parlé, qui dirigeait les prières et les lectures des rassaïdes. Donc si on parle des mourides que je connais un petit peu mieux, ils ont été, comme on voit, les entrepreneurs de leur religion dans la migration. Et pour transnationaliser leur mouvement, ils se sont adaptés et trouvés dans le pays de migration les intermédiaires nécessaires à leur religion. La hiérarchie, quant à elle, s'est adaptée dessus ce modèle-là. Et dès les années 90, elle a délégué un cher qui allait suivre les migrants, Sérine Mourtalin Baquet, qui est aujourd'hui remplacé par son fils. Un cher qui était le garant de la continuité et qui a œuvré, donc, lui, en construisant le mouridisme en migration, mais en compagnie des premiers talibés. Ça s'est fait vraiment dans le partenariat, on va dire. Donc ces imams, ces commerçants, ces ouvriers qui ont organisé le culte au début de la migration. Puis petit à petit, dans chaque branche du mouridisme, les chers itinérants vont accompagner et développer la confrérie. Donc on observe dans la migration ces multiples facettes de ceux qu'on a appelés aussi les légitimes régisseurs des biens de salut, qui se sont adaptés aux nouvelles configurations de la confrérie au cours du siècle, jusqu'à suivre les talibés. Donc les premiers sont les migrants. Sont les talibés qui sont partis, et petit à petit, c'est les chers qui ont adopté les mêmes pratiques de circulation. Donc le deuxième temps, c'est les étudiants mourides, donc on est dans le milieu des années 70, donc là je renvoie aux travaux de Moustapha Diop, Marcoumba Diop, de ces années-là, de Mohamed Timera, donc je ne vais pas m'étendre sur cette question. Donc c'était l'association religieuse comme levier du pan-islamisme ou du pan-arabisme dans ces milieux des années 70. Il y a une forte migration étudiante qui arrive du Sénégal, souvent des étudiants d'origine urbaine, fils de professeurs, de fonctionnaires, qui avaient auparavant inauguré du coup les premiers daïras dans les universités sénégalaises. Et ils veulent organiser la confrérie dans la migration autour d'associations du style l'ESM, l'association des étudiants et des stagiaires mourides, qui devient plus tard le MIM, qui a été fondé par Cheikh Abdoulaye Diaye. Donc on est dans une autre configuration, des étudiants qui arrivent, qui sont portés par une idéologie plus nationaliste des années 70, et qui vont essayer de faire avec les commerçants, on va dire, des associations, mais qui veulent joindre le projet religieux à un projet nationaliste et se servir des valeurs civilisatrices de la confrérie mouride, en fait, de l'héroïsme de Cheikh Amadou Bamba, pour un petit peu retrouver une place aussi au sein de la confrérie. C'est ce qu'on a appelé aussi les non-légitimes, ou que Cheikh Gueye a appelé les exclus de la mémoire. en fait, qui ont voulu aussi trouver une place, une légitimité. C'était le cas aussi du Hizbut Tahrir qu'il y a aussi au Sénégal, donc ces associations-là. Mais en France, c'est des mouvements, et notamment à Marseille, alors ça a un peu marché à Paris, et à Marseille, ça a eu très peu d'écho. Et globalement, il y a eu des parcours qui se sont petit à petit séparés avec ceux des commerçants, des ouvriers qui étaient sur place. Oh non, c'est pas possible. Non, c'est abusé, là. Non, j'ai pas parlé 10 minutes, c'est pas possible. Donc, allez, on va... Non, non, c'est pas possible. Les étudiants arabisants, donc là, c'est le troisième temps de la migration. Donc, alors là, j'avais plein d'exemples. C'était les plus beaux moments, en fait. Les étudiants des Hazards, de la Karawine qui sont venus, la Zaytouna. Donc, de ces petits-fils, en fait, qui petit à petit se sont fait rattraper, qui ont fait souvent des deuxièmes cycles dans le monde arabe, et qui, en arrivant en France pour leur troisième cycle, se sont fait rattraper par... leur famille religieuse, on va dire. Donc c'était le cas de Mambala Baké, qui était un petit-fils direct de Cheikh Amadou Bamba, et qui nous disait, si ces jeunes petits-fils de Serine Touba sont en France pour compléter leurs études, dans d'autres domaines, ils vont très vite se faire attraper par le sang. Ils se trouvent confrontés à leur mission mouride, qui est d'être entièrement disponible pour les talibés de la confrérie. Leur mission est alors d'être proche des talibés, de transmettre, de contrôler la baraka et le mouridisme, d'assister les événements religieux et les cérémonies familiales, de répondre aux demandes de la hiérarchie confrérique et aux sollicitations des talibés, mais pas de produire des interprétations. Ce sont ces héritiers, ces arabisants qui ont été formés dans des universités islamiques, qui finalement, dans les temps de la migration étudiante, vont se retrouver rattrapés par leur naissance et qui vont à chaque moment de leur temps libre, petit à petit, s'occuper plus des talibés finalement que de leurs études. Mambala Mbaké, donc, qui est décédé maintenant, disait « Moi je suis là, je fais mes études, mais ça ne m'empêche pas d'avoir conscience d'une responsabilité vis-à-vis de la communauté. » Donc en fait, finalement, je ne fais pas d'études, je suis à la disposition de ma communauté. Donc ça, c'est des entretiens que j'avais faits dans les années 2000. Et petit à petit, on voit bien que ces jeunes étudiants se sont fait rattraper et ont passé de plus en plus de temps à s'occuper de la communauté. Et certains sont restés en France, d'autres sont repartis. Mais globalement, ils ont accompagné la confrérie dans son développement. Alors dans le quatrième temps, mais il y a un cinquième temps encore, ça va être difficile, c'est ce que j'ai appelé sortir la communauté. Donc vous avez vu qu'on a un premier temps où on est plus dans le communautaire qui va lui-même mettre en place son accompagnement, les étudiants qui arrivent, plus les étudiants après arabisant qui organisent la communauté, qui organisent aussi l'accompagnement religieux en plus des daïras. Et puis dans un quatrième temps, on va voir qu'il y a aussi cette tentative de sortir la communauté pour aller aussi plus vers un islam en France, hein, pour guider l'islam soufi plus largement que la communauté mouride ou tidjane. Et là, je voulais parler du parcours de Cheikh Ahmed, qui sera là aussi cet après-midi. C'est sérieux, 2 minutes? Non, parce que Bakary parle beaucoup plus que moi, après ça va, je vais compter. Donc, bon, on pourra en discuter après, mais donc lui aussi, elle fait partie de ces jeunes, Cheikh Ahmed Dieuguen, qui était venu pour faire ses études en France, des études d'architecture, et qui peu à peu est devenu imam dans le milieu étudiant d'abord. Il menait le culte à la cité universitaire comme imam sénégalais pour sa communauté, comme imam pour les étudiants, mais pas du tout pour la communauté sénégalaise. Il connaissait très peu la communauté sénégalaise de Marseille au départ, et puis petit à petit est devenu imam pour sa communauté, et puis encore un petit peu plus tard, imam défenseur d'une théologie contextuelle et plurielle, et entrepreneur de la Tidjanie entre plusieurs territoires. Mais bon, je ne vous ferai pas le parcours de Cheikh Ahmed, et puis on pourra en parler avec lui cet après-midi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment petit à petit ce jeune qui était étudiant est devenu aujourd'hui un imam reconnu après être aussi passé depuis 20 ans par la radio, où ses prêches sont reconnus, et ses prêches sont parfois même vus comme des plaidoyers pour un religieux dans un espace public ouvert et tolérant. On le voit passer d'un islam au départ... imam juste pour guider sa petite communauté d'étudiantes, et petit à petit à être appelé aussi par le préfet, appelé aussi par le bureau des cultes, etc., pour parler aussi de l'islam qu'il connaît et de la famille religieuse qu'il connaît. Alors je vais passer tout ça, Et puis, donc lui, ce qu'il dit forcément, c'est qu'il a fallu s'adapter et que lui, il a appris à s'adapter théologiquement parlant, c'est-à-dire le fait d'avoir commencé hors communauté et pas dans, dans sa Tidjania d'origine, ça lui a appris à parler aussi à un ensemble de musulmans, d'abord à la cité universitaire, puis petit à petit à la radio, et ça lui a permis aussi de s'adapter aussi théologiquement et d'avoir un discours plus ouvert aussi sur un islam dans la société française. Et petit à petit, au plus il intégrait les migrants, au plus Cheikh Ahmed prenait sa place parmi les Sénégalais de France et la communauté musulmane de Marseille. Donc je vous laisse le cinquième temps, qui était les imams du juste milieu. Donc, pour arriver à la conclusion, ça va super vite. Donc les imams du juste milieu, c'est que depuis la période des attentats, globalement, il y a un marché de la formation qui s'est ouvert, on le voit bien, et notamment aussi qui est lié au Maroc, où il y a toute cette vague d'étudiants sénégalais qui viennent se former dans un imam du juste milieu au Maroc, donc une théologie encore particulière. Et pour conclure, je dirais qu'en religion, donc la mobilité... globalement, elle est de ces hommes dans ces différents espaces. Ces leaders que j'ai rencontrés, mais dont j'aurais pas pu vous en parler, même pas d'un quart, se sont formés entre plusieurs pays et plusieurs réalités migratoires, mais ils ont peut-être eux-mêmes inventé les formations religieuses de demain, qui ne sont pas complètement guidées par leur histoire religieuse ou par leur gouvernement, ni complètement françaises. Ce débat religieux, finalement, me montre aussi, en ayant travaillé sur le christianisme, aussi dans la mobilité, qu'en fait il y a différents temps aussi, et je conclurai là-dessus, différents temps la migration et différents temps aussi d'adaptation de la théologie ou d'adaptation du discours religieux qu'on peut retrouver dans les prêches. Au premier temps la migration, que ce soit en France ou au Maroc ou en Égypte, dans les terrains sur lesquels j'ai travaillé, où on a d'abord une théologie qui fait plus référence à l'exil, à la migration dans les premiers temps, qui est du coup faite par les premiers qui sont arrivés et qui n'avaient peut-être pas non plus les outils, hein, qui se sont adaptés avec les contraintes aussi d'un encadrement religieux qui n'était pas existant, parce que c'est une théologie de la migration. Petit à petit, on voit apparaître une théologie plus nationaliste dans les années 70-80, où sont mis en avant des symboles nationaux de l'islam qui servent à accompagner une certaine légitimité d'autres acteurs religieux en migration qui ne sont pas descendants de la confrérie. Et ensuite, c'est une théologie qui est une théologie de l'installation qui est plus plurielle, souvent plus humaniste, qu'on va rencontrer sur ces scènes religieuses sur lesquelles j'ai travaillé. Et une théologie aussi qui est plus dans la circulation, qui connecte les pays d'origine, pays de passage et d'installation, et qui interroge un petit peu plus sur l'islam de demain. Donc voilà, je conclurai là-dessus. Merci beaucoup.